Je m'appelle Didier. Mon épouse est décédée de maladie. J'ai toujours été convaincu que le temps ne suffirait pas à apaiser ma tristesse. J'ai cherché des ressources autour de moi pour traverser cette période. J'habite au Pays Basque. J'ai trouvé des appuis qui me permettent d'être là aujourd'hui, de parler devant ce micro pour partager mon expérience et vous encourager, pour vous aider à faire les premiers pas difficiles sur ce nouveau chemin que vous comme moi vous n'avez pas choisi, mais aussi pour remettre en question des idées reçues et des tabous, pour vous faire rencontrer des personnes inspirantes qui peuvent être là pour vous aussi comme elles l'ont été pour moi. La perte et le deuil sont dans notre vie, inutile de se le cacher, on va en parler au contraire. Le deuil autrement, c'est une autre route que nous pouvons prendre ensemble. Je n'ai aucune connaissance professionnelle ni rien à vendre dans ce domaine. Si vous avez appuyé sur play pour ce podcast, félicitations, vous avez fait un premier pas. Venez avec moi, je vous emmène. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, un hors-série qui préfigure les épisodes de la saison 2. Vous me direz ce que vous en pensez. Et désolé pour les petits problèmes de son temporaires au milieu de l'épisode. Dans cet épisode et ceux qui vont suivre, on a décidé de se prendre par la main. Je sais, c'est pas très facile, c'est pas toujours possible, mais là on décide d'être dans la vie telle qu'elle se présente. Quelque part, en ayant des activités, en réalisant des choses, on se reconstruit. Et bien sûr, le manque que l'on vit, lui, il sera toujours là. Mais ça nous permet de nous solidifier un petit peu dans cette période où évidemment on est vulnérable, où une partie de nous-mêmes a disparu avec le décès de la personne qu'on aimait. Alors ça nous permet de nous reconstruire, et ces personnes diverses et variées que je vais vous présenter les unes après les autres peuvent participer à ça. En tout cas, moi, ça a été mon expérience, et moi, ça m'a fait du bien et je voulais vous partager tout ça. Et surtout, pas de culpabilité de faire des choses pour vous, car c'est la vie qui est là. Et c'est comme ça qu'on peut traverser en laissant aussi la vie nous proposer ce qui vient et finalement ce qui est bon pour nous. Laissez-vous guider à travers ces personnes, je suis sûr que vous trouverez des choses intéressantes. Et pour cet épisode qu'on va appeler « Créer, c'est se créer », je voulais vous présenter Marie-Laure pour vous parler de quelque chose que j'ai expérimenté, moi, que j'ai trouvé assez remarquable. C'est tout simplement d'utiliser la peinture pour déposer notre émotion du moment et notre tristesse. Et voilà, j'ai voulu donc qu'on puisse accueillir Marie-Laure aujourd'hui pour qu'elle nous parle de ça dans le détail. Bonjour Marie-Laure.
Bonjour Didier.
Alors, pour commencer, peut-être tout simplement, est-ce que tu peux te présenter en 2 minutes?
Eh bien, je suis Marie-Laure. J'habite à Anglette et je suis également enseignante de yoga. Je pratique l'accompagnement de la personne grâce à la gestalt thérapie et il y a également principalement aussi l'art thérapie qui m'accompagne, enfin je veux dire qui fait partie de ma vie et de mes compétences.
Pour commencer, y a une très belle citation dans les références que tu présentes, citation qui dit « créer, c'est se créer ». Alors moi j'ai trouvé ça très beau et encourageant pour les personnes comme nous qui sommes dans des périodes de doute, de perte de repères, etc. Voilà, moi j'ai trouvé que c'était intéressant cette notion-là. Avant qu'on rentre dans le détail, créer c'est se créer, qu'est-ce que ça veut dire exactement?
Eh bien, en fait, ce n'est pas une citation de moi, mais c'est Gérald Kito de l'école d'art-thérapie, donc Atelier Vers Lumière à Saint-Étienne, où moi, j'ai reçu ma formation. Et c'est vrai que cette phrase résonne énormément à l'intérieur de moi. Grâce à la peinture ou d'autres formes d'art, il va y avoir partir de l'intérieur vers une création extérieure. Et à partir de là, cette transformation que nous agissons sur le tableau, la terre, ou de créer un objet, de créer quelque chose, il y a à la fois quelque chose qui part de nous, qui crée l'objet, et nous sommes transformés par l'objet. Donc il y a un cercle vertueux qui s'installe et qui participe à la création de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et notamment aussi, là, sur ce thème du deuil, ça va faciliter l'expression des émotions qui pourraient être bloquées à l'intérieur de nous. Donc c'est une opportunité, c'est une chance. Lorsqu'on dépose de la peinture sur le tableau, il y a ce mouvement qui part du cœur, le bras, la main jusqu'au pinceau, ça se dépose, c'est une opportunité de libérer de l'émotion et aussi de prendre du recul. Donc il y a transformation et donc il y a création.
D'accord, merci, je trouve ça très intéressant. Et pour l'avoir vécu, voilà, on le détaillera ultérieurement, mais c'est bien qu'on s'arrête un petit peu sur cette belle citation. Alors, donc on prend dans cet épisode un petit peu nos habitudes. Donc la règle, c'est de parler du deuil, et donc à chaque fois, j'interroge les invités. Donc toi, en ce qui te concerne, alors qu'est-ce que tu as pensé spontanément quand je t'ai proposé de participer à ce podcast sur le deuil ?
Spontanément, je pense que c'est une très bonne idée. Parce que lorsqu'il y a... Revenons sur le terme de deuil. S'il y a deuil, c'est qu'il y a perte. C'est qu'il y a perte douloureuse. Cette douleur à l'intérieur de nous, elle peut nous arrêter. Elle vient complètement créer un chaos dans la vie. Et donc, il y a quelque chose qui se fige à l'intérieur de nous. Donc, en créant ce podcast, il y a une opportunité de remettre du mouvement. Et là, puisque nous sommes en audio, c'est un mouvement de la parole. C'est pouvoir parler, être entendu, témoigner. Donc, il y a quelque chose qui recircule. Donc, merci à cette initiative.
D'accord, merci, merci Marie-Laure. Donc, en ce qui concerne, pareil, deuxième question, comme tout le monde, tu as sûrement vécu à titre personnel un deuil peut-être plus sensible, plus douloureux. Est-ce que tu veux bien nous dire, voilà, en 2 minutes, de qui est-ce qu'il s'agissait, et dans quelles circonstances, et où est-ce que tu en es sur ce chemin ?
Oui, tout à fait, bien sûr. La vie, c'est un processus de perte. Donc, il y a des petites pertes et puis il y a des grandes pertes. Et pour moi, celle qui a été très profonde, c'était le deuxième parent, c'est-à-dire mon père, une dizaine d'années après que ma maman nous ait quittés. Et c'est vrai que j'ai eu de la peine dans les deux cas, mais vraiment au deuxième deuil, tout à coup, il y avait quelque chose de ma condition sur cette planète qui était différente. Je perdais des racines, je perdais des piliers de référence. Enfin, il y a quelque chose qui s'est ouvert. C'était un vide abyssal que j'ai ressenti, un abandon total, etc., etc. Et j'avais cette chance d'avoir déjà, comme j'ai accompagné mon père sur ce chemin initiatique où on va vers la mort et donc un autre état qui se manifeste, j'étais déjà dans un atelier de peinture d'art-thérapie. Et j'ai pu, avec cet événement, vraiment utiliser l'art-thérapie que j'ai pris à plein corps, et j'ai plongé dans cette formation, d'où je suis devenue donc professionnelle art-thérapeute. Donc quand j'ai ressenti cette grande difficulté, j'ai eu à l'intérieur de moi quelque chose d'impérieux à prendre ce sujet beaucoup plus profondément. Donc il s'est trouvé que je devais écrire mon mémoire. Il m'était difficile de penser à d'autres choses parce que moi j'étais envahie à ce moment-là de cette peine et de cette douleur. Et Gérald Quito m'a proposé d'écrire spontanément. Il m'a dit, au lieu de t'éloigner du cœur de toi-même, tu vas pouvoir t'en rapprocher. Et donc ce mémoire m'a permis de ne pas me séparer de moi-même, mais au contraire de plonger encore plus profondément à l'intérieur de moi, et à constituer à la fois un mémoire pour l'école et également une autothérapie à l'intérieur de moi. C'était sur 3 ans, et donc avec le mémoire, ça a fait une formation de 5 ans. J'ai envie de dire que l'art-thérapie, c'est remettre du lien. Lorsqu'il y a deuil, il y a eu perte et il y a eu séparation. D'où la souffrance et la douleur. Et peindre, c'est venir renouer avec ce qui est, et ça nous permet de renouer avec la perte, et c'est une opportunité de pleurer dessus et de se détendre et d'évacuer les émotions, et ça vient créer un lien avec notre intérieur, avec notre cœur. C'est vraiment une union.
Donc là, tu nous parles du décès de ton papa, tu avais quel âge ?
J'avais 45 ans.
D'accord, ok. Et donc, par rapport à ce chemin de deuil, où est-ce que tu en es aujourd'hui ?
Je pense que selon les situations et l'équilibre de ma vie, je peux être peut-être un peu fragilisée et donc du coup, il peut ressortir quelques larmes, une nostalgie. Mais j'ai énormément avancé. Parce qu'en fait aussi, en travaillant sur ce prétexte, donc le deuil de mon père, donc de mon papa, en fait, par ricochet, ça travaille dans plein d'autres domaines. Donc c'est une réelle évolution intérieure. Je ne suis plus la femme qu'il y a 10 ans, 15 ans et il y a 20 ans. C'est une très très belle, c'est initiatique, c'est une très très belle évolution de vie intérieure.
Dernière question, pour les gens qui sont en deuil, est-ce que tu aurais un conseil à leur donner ?
Eh bien, il est important de considérer, de prendre en compte cet arrêt. La vie s'arrête, ou du moins, elle est sans dessus-dessous, à l'intérieur de nous. Donc, c'est important de remettre un mouvement de vie. Donc, le conseil, c'est commencer à petits pas, accompagner cette douleur intérieure, ne pas être pressé. Petit pas, c'est peut-être dans les premiers temps, juste sortir 5-10 minutes dans la nature. Ou alors peut-être, moi par exemple, si je témoigne, j'avais besoin, je me sentais complètement immobile à l'intérieur de moi, dans un grand désarroi. J'allais m'asseoir dans des terrasses où la vie se propageait autour de moi et moi j'avais mes larmes qui coulaient, j'étais habitée de mon chagrin. Mais j'étais au cœur de la vie et j'ai fait ça plusieurs fois comme ça, spontanément, parce que y avait cette vie qui était autour de moi et qui, mine de rien, quand même pénétrait à l'intérieur de moi, même si dans l'instant, je n'avais ni envie de parler, ni envie de rire, ni envie de sourire. Donc je dirais, c'est des petites à dose homéopathique de remettre de la vie en mouvement. Et puis ensuite, on trouve le courage de s'inscrire à un atelier.
D'accord. Bon, merci. Merci pour avoir joué le jeu sur ces trois premières questions. Alors, tu t'es présenté rapidement. On a vu que tu avais plusieurs cordes à ton arc. Le terme d'art-thérapie, moi, il me laisse un petit peu perplexe parce que dans une période de deuil, spontanément, on a vu dans les épisodes précédents que parfois on n'a absolument aucun élan. On est effectivement, comme tu l'as dit, figé dans son chagrin, dans sa tristesse. On n'est absolument pas capable de prendre son téléphone et d'aller chercher un quelconque atelier parce que ça voudrait déjà dire que quelque part on s'éloigne de la personne qui est partie, et ça on veut pas. Enfin, on a détaillé tout ça dans la première saison. Donc moi, je voudrais juste qu'on dise pourquoi on appelle ça l'art-thérapie. Alors tu as expliqué, tu viens de nous dire, l'art-thérapie, on dépose des choses, mais est-ce que c'est valable pour tous les arts, et pourquoi ça peut nous aider? Donc c'est quoi l'art-thérapie? Et voilà, première question peut-être, c'est quoi art-thérapie? Pourquoi ça peut nous spécifiquement nous aider?
Oui, l'art-thérapie, c'est une opportunité de mieux se connaître, au sens que lorsque nous vivons notre vie, eh bien, nous sommes entraînés dans le mouvement de la vie. Tout à coup, il y a un événement que nous n'avons pas choisi, qui chamboule tout. Et donc, on appelle ça une opportunité de descendre dans notre profondeur. Et quand on dit thérapie, c'est d'aller explorer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et c'est surtout aussi une opportunité de libération. L'énergie, c'est-à-dire les émotions, sont une énergie. C'est soit elles stagnent à l'intérieur de nous, et puis ça peut créer des soucis de santé, de la fatigue, du stress, un manque de sommeil, etc., un déséquilibre. Et cette énergie, elle a besoin de circuler quelque part. Et là, c'est simplement un prétexte avec la peinture de venir faire sortir cette énergie de nous et de la déposer sur le tableau. Ça peut être fait d'une manière, alors ça vient chercher des choses plus archaïques à l'intérieur de nous avec la terre que l'on vient malaxer. Ça peut être d'une manière corporelle, comment réintégrer son corps physique grâce à la danse. Ça peut être connecter son cœur à des sons harmonieux avec la musicothérapie. Il y a différentes portes qui vont vous être proposées et aller là où votre cœur est attiré.
Alors quand tu dis, on parlera aussi du théâtre tout à l'heure avec Jean-Marc Toto, mais quand tu dis qu'ils vont vous être proposés, c'est simplement que la vie est là et se propose à nous et qu'il y a des choses qui, si on est attentif, qui vont venir spontanément par les réseaux, par les amis, etc. C'est ça que tu veux dire?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que lorsqu'on est en douleur et en souffrance, bien sûr, on a du mal à entendre que la vie est généreuse et abondante. Mais pourtant, néanmoins, ce sont des lois universelles qui ne s'arrêtent pas lorsque nous arrêtons. Nous sommes arrêtés dans cet état de souffrance. Et donc, effectivement, la vie va faire des clins d'œil et c'est à nous de les saisir.
Donc thérapie, hein, on n'est pas malade, c'est pas du tout le sens du sujet, c'est plutôt de se connaître en fait. Et effectivement, on sait que quand on vit cette solitude, moi en tout cas, l'expérience que j'ai, c'est que quelque part de se retrouver soi-même, qui on est, c'est une des clés pour traverser cette période. Donc l'art, il est varié. Il peut être effectivement, on a dit peinture, sculpture, la danse, enfin tout peut être la musique, tout peut nous servir finalement à déposer notre émotion, comme tu l'as dit. Puisqu'on parle peinture, qu'est-ce que dans toutes ces possibilités que l'on aurait de faire des choses, la peinture, qu'est-ce qu'elle a de spécifique?
Alors déjà, on peut être rappelé parce qu'on a une sensibilité vis-à-vis de la peinture et puis en même temps, ça s'adresse absolument à tout le monde. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un accompagnement qui peut être fait avec l'art-thérapie et la personne, dans le futur, ne poursuivra pas du tout de peindre chez elle. C'est un outil de découverte et de connaissance, c'est-à-dire qu'il va y avoir au moment concret de l'atelier, il peut émerger des surprises, c'est-à-dire de découvrir des choses que nous ne connaissons pas de nous-mêmes. Et surtout, tout à l'heure tu as mentionné qu'on pourrait il y a une ambiguïté à s'éloigner du chagrin, donc c'est s'éloigner de la perte et de la personne qui nous a quittés. Et en fait, l'art-thérapie propose de s'en rapprocher. Parce que justement, en peignant, on va justement peindre sur ces émotions qui habitent la personne. On ne lui demande pas d'être autre dans l'atelier. Elle est donc habitée de tout ça. Elle le peint, elle dépose. C'est un jeu. On dépose les couleurs sur la feuille. C'est complètement abstrait. Et là, c'est comme si vous étiez... on propose de dire, vous êtes allongé dans un pré, vous regardez les nuages, on l'a tous fait, enfant ou plus tard, et on va y apercevoir de manière subjective des formes qui ne sont pas les mêmes selon les personnes qui regardent les nuages. Et je vais inviter à aller chercher des formes justement dans cette rêverie, dans ce lâcher-prise sur le tableau. Ces formes vont émerger et ensuite il y a le processus de description et de faire des liens avec la situation actuelle, avec ce qui est proposé là. Et tout ça, il va y avoir à l'intérieur du corps comme un soulagement, parce qu'il y a à l'intérieur de nous une intelligence innée qui est là, qui n'attend que ce moment de s'exprimer. Et cette expression, elle peut être en larmes, elle peut être en émotion, il peut y avoir pendant quelques minutes de la joie et puis ensuite basculer sur une autre émotion. C'est accompagner ce mouvement de la vie où à l'intérieur de vous, tout est en changement. Vous n'êtes plus ce que vous étiez avant, vous n'êtes pas encore ce que vous allez devenir. La peinture vous accompagne.
Bon, et comme tu le disais, enfin, moi je ne suis pas artiste peintre hein, du tout. L'objet de ces ateliers, hein, ce n'est pas de créer un tableau magnifique qu'on va afficher dans son séjour, hein. C'est pas du tout l'objet. Merci pour ces précisions. Comme c'est technique et que dans tes ateliers il y a des séquences particulières, moi je te propose qu'on fasse peut-être un épisode spécifiquement là-dessus. Dans un autre registre, on va, puisque moi j'ai aussi quelque part, je suis allé vers le théâtre de façon un petit peu spontanée après le décès de mon épouse. Le théâtre aussi, il provoque des choses intéressantes sur d'autres registres, mais on rejoint quand même ce que tu nous dis sur la peinture. Donc on va se retrouver avec Jean-Marc Toto et puis on clôturera cet épisode après. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour.
Donc on s'est rencontrés, je suis venu à un de tes ateliers il y a 2 ans maintenant, et on parlait avec Marie-Laure de l'effet des disciplines artistiques en fait sur notre équilibre, sur le bien-être, et comment on pouvait déposer des choses, des émotions. Et en parlant de discipline artistique, je voulais aussi avoir ton avis sur le théâtre. Donc toi, tu es metteur en scène, tu es auteur, tu es à Saint-Jean-de-Luz, à Espelette, tu fais beaucoup de choses autour du théâtre. Qu'est-ce que ça provoque finalement, le théâtre amateur, hein, je parle d'amateur comme moi. Qu'est-ce qu'on peut dire vis-à-vis du théâtre et de ce qui peut provoquer en nous quand on est là, quand on joue un rôle? Au-delà évidemment de donner confiance en soi parce qu'on est devant un public, etc. Qu'est-ce que ça provoque chez nous comme émotion? Est-ce que ça peut nous aider déjà le théâtre?
Alors, moi je vais répondre globalement déjà par rapport à l'art, parce que l'art, toute forme d'art, est un vecteur d'accompagnement et d'épanouissement personnel, d'accompagnement émotionnel, d'accompagnement de l'imaginaire, d'équilibre de l'esprit, d'équilibre du corps et d'équilibre de l'âme. Donc ça fait partie, autant pour les amateurs que pour les professionnels, un petit peu de la ligne de conduite, hein, de ce qu'on peut remarquer dans les apports et si on ne parle que du théâtre en effet. Que peut apporter l'activité théâtre, la pratique théâtrale, le training d'acteurs, tous les jeux associés à ça. Et c'est quelque chose que l'on peut retrouver, même quand on lit des récits ou des écrits de l'histoire de l'Antiquité, où le théâtre était un exutoire aussi dans l'Antiquité. Par exemple, dans l'Antiquité, en Rome ou en Grèce, le théâtre était un exutoire qui permettait au peuple aussi de pouvoir s'exprimer, de pouvoir réfléchir, de pouvoir canaliser ses émotions, mieux les comprendre, comprendre sa société, comprendre le monde qu'il vivait. Et ça n'a pas changé depuis l'Antiquité. Je vais reprendre une phrase de Terzieff, de Laurent Terzieff, qui pour lui était, moi je suis entièrement d'accord avec lui, pour lui le théâtre est la dernière expérience la plus humaine et la meilleure expérience de communication des hommes envers les hommes. Voilà. Bon. En résumé, cette phrase, c'est ça.
D'accord. Quand on arrive, qu'on est amateur, quel travail que tu nous demandes de faire? Comment ça se passe? En quoi, moi, ça va stimuler des choses? Comment ça réveille les choses en soi?
C'est le jeu qui réveille tout ça. C'est le jeu, c'est l'apprentissage, c'est retrouver sa respiration, retrouver son regard sur les autres, retrouver sa parole, retrouver la parole intérieure et la parole extérieure, la parole du communicant et la parole intérieure qui est la pensée que nous avons, l'imaginaire que nous avons. Retrouver des choses qui sont simples, briser nos préjugés, laisser de côté les choses qui nous paraissent évidentes, soi-disant, avec lesquelles on est sûr de rien. En fait, au théâtre, s'installe un doute, une forme de doute qui est assez intéressante à travailler, puisque ce doute amène à jouer, essayer de jouer la vérité, essayer de jouer la vie, sachant que le théâtre est un mensonge. Et c'est ça qui nous aide énormément à nous épanouir, à retrouver peut-être des fois confiance en nous et à trouver d'autres chemins pour notre épanouissement personnel.
Alors, là, moi, on travaille sur la question du deuil. En fait, tous les gens traversent des émotions dans leur vie. Voilà, ils n'arrivent pas au théâtre spécifiquement parce qu'ils sont en deuil ou dans la peine. Donc, toutes les situations de tout le monde se trouvent là sur ce plateau. En quoi, quand je suis traversé par un événement qui vient bousculer mon équilibre, comment le théâtre peut agir positivement? Qu'est-ce qu'il peut nous apporter?
Eh ben, il y a une phrase que j'aime bien au théâtre, le spectacle continue, quoi qu'il arrive.
Show must go on.
C'est show must go on, c'est show must go on, et comme on dit d'ailleurs, et la vie continue de la même façon. Par contre, c'est vrai qu'on le dit moins souvent face au deuil. Si tu prends cet exemple-là, face au deuil ou à un autre drame de la vie, on dit moins souvent et la vie continue. On oublie de le dire, c'est une erreur. Mais le théâtre, lui, nous rappelle que et le spectacle continue. Et donc, la vie continue. Et ça, c'est super important. C'est-à-dire, le chapitre ne s'arrête pas là. Le deuil étant un passage, juste un passage, le décès des personnes que l'on aime parfois est un passage de la vie, une épreuve qu'on va traverser. Moi, je dis très souvent de beaux paysages, c'est particulier de dire ça. Mais ce sont de beaux paysages. Pour ne citer que mon exemple personnel, j'ai trouvé très difficile d'accompagner le décès de mon papa. Voilà. J'ai trouvé cette première épreuve très difficile. Autant le décès de mon aïeul, de mes aïeuls, de mon grand-père ou de mes grands-mères, ça a été plus facile. Mais alors mon père, ça a été plus difficile. Ah tiens, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça me raconte? A posteriori, j'étais déjà comédien, mais jeune. J'étais déjà comédien, j'enseignais déjà. Je me suis dit à un moment donné, mais quand même, là, Gianmarco, t'es quand même le cordonnier le plus mal chaussé, là, quand même, à ce coup-là. Et j'ai trouvé ça un peu stupide de ma part. En faisant un retour sur moi-même, en me remettant au jeu, en me remettant au travail, je me suis dit, mais c'est un peu stupide, ça, la vie continue, là. Alors, attention, le spectacle continue, on va se calmer, là. On va arrêter de somatiser et de voir les choses que de sa propre lorgnette. On va ouvrir un petit peu le rideau et on va voir de quelle façon ça va nous aider. Ça m'a énormément aidé, à tel point, le théâtre, par la suite. Donc, on va dire, sur les deux décennies qui ont suivi, que récemment, j'ai accompagné une amie, écrivaine, qui était agrégée de lettres, auteur, et qui voulait que je monte deux de ses pièces avant de passer le vie à trépas, puisqu'elle était atteinte d'une maladie grave. Et donc, elle savait qu'elle était un peu condamnée. Je l'accompagnais avec le théâtre, je l'ai accompagné avec l'émotion, je l'ai accompagné en mettant en œuvre, avec l'aide de comédiens, qui ont été formidables d'ailleurs sur ce coup-là, je l'ai accompagné le travail sur son œuvre, et je crois que, non content d'avoir fait énormément de bien à cette personne, qui était très robuste au niveau caractère, hein, qui n'avait pas peur de la fatalité, je crois que j'ai accompagné tout le monde. On s'est tous accompagnés les uns les autres, tout doucement, on a accompagné l'arrivée de l'annonce du décès de cette personne. Mais en même temps, on a accompagné beaucoup de monde autour de nous. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que tiens, on n'est pas seul. Tiens, ça peut vachement aider d'un seul coup de ne pas s'isoler et de se retrouver entre nous. Et je parle de cette histoire, cette anecdote qui n'est pas très vieille puisque c'était juste après le Covid. Voilà.
D'accord, merci. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour encourager les gens qui effectivement subissent des événements qui à un moment nous fichent dans une tristesse, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour les encourager à saisir une opportunité d'un atelier, de quelque chose? Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire?
Moi, je leur dirais simplement, essayez, pratiquez. Ne prenez pas le théâtre pour une thérapie, je dirais ça. Par contre, ça c'est très important, on n'est pas des psychologues. Oui. Comédien n'est pas psychologue du tout, il travaille, il s'intéresse à la psychologie, mais il n'est pas psychologue, il n'est pas thérapeute. Déjà, mais par contre, de pratiquer, de rencontrer le vivant, d'être au contact du vivant, de le réimaginer, le vivant aussi, c'est intéressant ça, puisqu'on, comme je disais, c'est du mensonge sur un plateau, c'est des histoires, c'est de la fiction. Ouais. Donc, de réimaginer le vivant, de se le réapproprier, tout ça peut en effet énormément faire de bien. Ça, c'est sûr. Peut amener, et selon quelle que soit la discipline, que ça soit de l'improvisation, de l'art du clown, que ça soit du mime, que ça soit juste de l'interprétation, un stage basique de théâtre pour découvrir vraiment les premiers pas sur scène, etc. De ne pas hésiter à aller vers ce vivant-là, parce que ce vivant-là, il est, je le répète, c'est la phrase de Laurent Terzieff, c'est la dernière expérience et la plus fiable. Aujourd'hui, dans nos sociétés contemporaines, c'est la plus fiable des expériences de communication des hommes envers les hommes. C'est humaniste, le théâtre. Voilà.
Merci Jean-Marc, et merci pour tout ça. Merci.
Avec grand plaisir.
Donc peut-être pour conclure, en fait, on voit qu'il y a des convergences hein, dans tous ces modes d'expression, parce que le théâtre, il me fait vivre des émotions aussi que je dois incarner des personnages. Il y a l'interaction avec les autres, donc il y a quelque part un mouvement vers la vie aussi qui se fait avec le théâtre. On a des parallèles avec la peinture, on se remet en mouvement quelque part.
Oui, tout à fait. C'est reprendre, en fait, tout à l'heure, la phrase « créer, se créer », c'est reprendre contact avec notre pouvoir créateur. Ça, c'est un élan de vie qui ne meurt pas à l'intérieur de nous. Mais on s'en déconnecte. Et l'invitation, c'est de venir au contact. Donc justement, il y a un contact dans le théâtre, il y a un contact dans la danse, un contact avec l'instrument, avec le son. Et là, il y a un contact avec la peinture. Et c'est-à-dire, on vient au contact du tableau, on est concentré, on est habité, on plonge dedans. Et ça remet du lien, ça remet du mouvement. Et ensuite, justement, on peut prendre du recul. C'est-à-dire, le tableau, tu l'as très bien précisé, il ne va pas être affiché en galerie. Il y a un cadre très précis de confidentialité. Et on dit que c'est une peinture sur soi. Le soi, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Ce tableau, il est une expression extérieure de notre intérieur. Et il y a donc cette notion de lien, cet élan de vie dont tu parles, grâce au théâtre et grâce aux arts qui viennent nous emmener au-delà. Donc pendant quelques secondes, on sort de la souffrance, et puis ensuite il y a des allers-retours, et puis les choses rentrent en résilience, s'adoucissent, le chemin se fait. Ce sont des chemins très 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 beaux. Quelque part, il y a une évolution. On ressort grandi de l'expérience douloureuse, malgré tout. Tout.
Ouais, c'est ce que j'ai vécu aussi. Bah écoute, merci beaucoup Marie-Laure pour cet échange. Merci à Jean-Marc aussi. Et puis donc on fera un épisode spécifique. Donc je rappelle que tu es sur Anglette, tu exerces sous le nom professionnel de SOHAM, SOHAM, donc vous pouvez trouver sur le web. Au revoir Marie-Laure.
Oui, au revoir Didier, à bientôt.
Merci d'avoir écouté cet épisode, et si vous voulez soutenir mon initiative, vous trouverez un lien dans la description ou bien sur la plateforme Ulule. Dans tous les cas, merci, je veux vous encourager. La vie est là, profitez-en, vous pouvez traverser. Et surtout, cultivez l'amour, c'est le plus important. À bientôt.
Au sommet des villes, plus de parfums que d'épines, puis tout. Qui est à sa place? Qui est à sa place?